Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Bonjour et bienvenue dans Milkshaker, le podcast qui agite les idées reçues sur l'allaitement. Je suis Charlotte Bergerot-Palisco, la maman d'un petit garçon de 3 ans et ostéopathe spécialisée en périnatalité. J'accompagne les femmes et les enfants à différentes étapes, dont entre autres la mise en place d'un allaitement serein, en aidant les bébés à téter correctement. Ce podcast, je l'ai imaginé pour vous offrir des témoignages variés, des expériences de familles qui ont allaité plus ou moins longtemps et avec plus ou moins de facilité. Ici, vous découvrirez l'allaitement sous toutes ses coutures. Vous pourrez aussi vous informer auprès de professionnels, tous spécialisés dans le domaine, pour vous apporter, lors d'épisodes experts, les informations les plus justes et savoir comment vous orienter en cas de difficulté. Mon objectif est simple, offrir ces informations à toute mère, famille et tout professionnel qui souhaite se renseigner sur le sujet. Que chacun puisse faire ses choix de façon éclairée et casser les idées reçues qui circulent pour vous rendre l'allaitement plus accessible, plus facile, normal, banal même, et ce, qu'importe vos envies et votre projet. Ce qui aide ces informations à se diffuser pour que le plus grand nombre puisse en bénéficier et qui permet à Milkshaker de continuer de s'agiter, c'est vous, par vos partages autour de vous, sur les réseaux, vos écoutes, mais aussi vos notes ou étoiles sur les plateformes d'écoute. Alors je vous serai très reconnaissante de prendre une minute pour soutenir ce projet. Et maintenant, place à l'épisode. Hello, hello. Aujourd'hui, c'est le dernier épisode de la saison 2 de Milkshaker avant une pause estivale. Et c'est en lien avec l'épisode 70 et le témoignage de Jeanne que je souhaitais aujourd'hui faire intervenir un expert pour nous parler du vasospasme. C'est Céline Bourganeuf, IBCLC dans le sud de la France, qui va tout nous décrypter. Et comme d'habitude, sur ce style de problématique, qu'est-ce que c'est ? Pourquoi ça vient nous embêter durant l'allaitement et quelles sont les solutions pour s'en sortir. Céline va donc vous expliquer d'où viennent ces douleurs, comment les reconnaître et que faire pour les limiter. Car désolée de vous annoncer qu'il n'y a pas toujours de solution définitive, mais plein de bons tips, comme Céline s'étant donné, pour se rassurer, s'apaiser et se soulager. Comme je vous le disais, cet épisode sera le dernier de cette deuxième saison que je vous remercie d'avoir suivi. J'espère que vous y trouvez l'information et la transmission que j'ai à cœur de vous proposer. Pour cet été, je vous propose des rediffusions d'épisodes chaque semaine pour continuer de milkshaker où que vous soyez et autant que vous le voudrez. Je me repose cet été et je reviens en pleine forme en septembre, c'est promis. D'ici là, je vous souhaite une belle écoute avec Céline. Salut Céline, bienvenue dans Milkshaker.
Bonjour Charlotte, merci pour ton accueil.
Mais de rien, aujourd'hui je vous accueille avec ma plus belle voix. Je sors d'un Covid un peu costaud et d'une semaine de mariage assez intense. Ma foi, ça en valait le coup, mais je n'ai plus de voix et pour un podcast, ce n'est pas des plus faciles, mais ça va le faire. Donc Céline, aujourd'hui on se retrouve et je suis ravie de te retrouver pour la énième fois pour parler vasospasme. Le vasospasme déjà, qu'est-ce que c'est Céline ?
Alors, le vasospasme, il a été décrit d'abord comme une maladie des mamelons douloureux psychosomatiques. Au départ, on pensait vraiment que c'était un peu dans la tête des mamans, puisque d'un point de vue visuel, c'est pas facile à décrire. On va voir ça plus tard. Il a été vraiment décrit en 1992, donc ça montre aussi que c'est quelque chose qui est assez récent. Et c'est une variante de ce qu'on peut appeler la maladie de Raynaud, qui a été envisagée comme une cause du phénomène du vasospasme.
D'accord. Donc ce qui signifierait que toutes les personnes qui ont un vasospasme ont en fond une maladie de Raynaud ?
Oui, en fond une maladie de Raynaud. Il y a plusieurs types de degrés de maladie de Raynaud. La plus connue et celle qu'on a de plus en plus, c'est surtout au niveau des extrémités, donc des mains et des pieds, où on va avoir les fameux pieds gelés, même en pleine canicule. Ouais. ou les mains très souvent froides. Donc ces mamans-là, si vous avez déjà ces symptômes-là, il y a possiblement une maladie de Raynaud sous-jacente et un risque de vasospasme élevé pour le coup pendant l'allaitement.
Ok. Et alors, du coup, comment ça se matérialise? C'est quoi les symptômes de cette maladie de Raynaud et donc du vasospasme qui va avec?
Alors, la maladie de Raynaud, c'est une ischémie qu'on peut dire intermittente des extrémités qui est due à un vasospasme. Le vasospasme, en fait, c'est une contraction, une vasoconstriction des vaisseaux qui limite l'afflux sanguin et qui, lorsque la dilatation se recrée, va créer une douleur. Donc c'est j'abaisse mon capillaire veineux et tout d'un coup, il se réaugmente, il se vasodilate et c'est cette différente variation de la veine qui crée de la douleur.
D'accord, c'est la variation entre les deux finalement. C'est pas le fait que ce soit l'un ou l'autre, c'est le fait que ça varie vite entre les deux.
C'est ça, parce qu'on peut ne pas avoir de douleur pendant la vasoconstriction et il y a des mamans qui vont avoir une extrême douleur à la vasodilatation. Si on prend le phénomène d'engelure par exemple ou de froid extrême, on va pas ressentir le froid. On va avoir un peu froid, c'est un petit peu engourdi, etc. Mais c'est surtout quand on va se réchauffer les mains qu'on va avoir cette sensation d'aiguille, de picotement et de fourmillement qui va être plus insupportable que finalement le fait de rentrer dans quelque chose qui va être plus froid. Donc la vasoconstriction se crée par le froid, mais par aussi la pression qui va être faite par la tétée du bébé.
D'accord, ok. Donc du coup, ça donne des douleurs au mamelon.
Oui.
Qui sont... Que comment on va faire la différence entre une douleur de vasospasme, une douleur d'un bébé qui pince, une douleur de, je sais pas moi, de mycose? C'est un peu compliqué là l'histoire.
C'est pour ça que c'est compliqué, c'est pour ça que le vasospasme est souvent associé à la mycose. Ce qu'on peut dire du vasospasme, c'est qu'on a un mamelon qui est normalement, anormalement blanc à son extrémité lors du réflexe d'éjection. On a un blanchiment, puis un bleuissement, puis un rougissement au niveau de la zone. Donc, c'est-à-dire que quand l'enfant va sortir...
Drapeau français.
Tu ne fais pas attention. Lorsque le bébé va s'enlever du sein, on va avoir tout de suite le mamelon qui va être blanc. Donc ça peut faire penser très rapidement à une mycose, voire même parfois de l'eczéma. Par contre, il va devenir très rapidement bleu, puis très très rouge, juste après. Et c'est quand il va se mettre dans le phénomène de rougissement, c'est-à-dire que l'afflux sanguin va revenir, que la douleur va apparaître. Donc on va pouvoir faire une différenciation entre la candidose et le vasospasme par rapport à la douleur. La douleur va être un peu présente pendant la tétée, mais surtout après la tétée.
D'accord, ok, oui, dans la candidose, c'est vraiment pendant la tétée que c'est le pire, quand le bébé il vient téter, ça fait les lames de rasoir et tout ça.
C'est ça.
Tandis que là, la tétée, ça va pas être confortable. Bon, et puis, comme je dis toujours, on a le droit de cumuler les problèmes, donc on a le droit d'avoir un vasospasme et un bébé qui tète mal.
C'est ça, et une candidose aussi.
Et une candidose aussi, bam, bam, tant pis, les couches. Donc du coup, l'intensité de la douleur est finalement plus forte après la tétée.
Elle est plus forte après la tétée et elle est possible pendant, mais elle est surtout après. Et la sensation, c'est vraiment une sensation de brûlure. Ça brûle, okay. Comme un picotement, comme quand on a, quand on retrouve un afflux sanguin vraiment très rapide. Ça chauffe, ça brûle et c'est très inconfortable.
Ouais, c'est quand on a les pieds gelés en hiver, en effet, finalement, c'est plus au moment où le sang revient dedans que c'est le plus douloureux.
C'est exactement ça. Ça touche 4 à 5% de la population générale. Hein, d'accord ?
Ah, quand même ?
Ouais. Dans ce phénomène de Raynaud.
De maladie de Raynaud.
Ouais. Ouais. Ça touche 20% les femmes, évidemment. Ouais. Et c'est aux alentours de 20 à 50 ans. Et après, ça peut diminuer.
D'accord, ok. Rapport à la couleur dont tu parlais tout à l'heure, donc pendant le réflexe d'éjection fort, mais bon là le bébé il a le mamelon dans la bouche, a priori il devient plutôt blanc.
Oui.
Et après il bleuit et il devient rouge. Donc en fait ce qu'on va pouvoir voir c'est le bleu et le rouge.
Exactement,
finalement.
Exactement. Et le blanc à la sortie de la tétée.
D'accord.
Et le blanc à la sortie de la tétée, c'est souvent ça. Si on reste dans l'observation, c'est pour ça que c'est important que ce soit des spécialistes de l'allaitement. Si on reste sur le phénomène de sortie de bouche, on est vraiment sur un mamelon blanc. Donc ça peut être une candidose, ça peut être un eczéma, ça peut être une mauvaise position, mais ça peut aussi être un vasospasme si on reste dans l'observation jusqu'au bleuissement et rougissement du mamelon quand il se recolore et reprend en fait une circulation.
Ok, très bien. D'accord, et ça le fait forcément sur les deux seins ?
Ça le fait forcément sur les deux seins. Il y en a toujours un, comme pour la quantité de lait, qui est un petit peu plus touché que l'autre, mais ça touche les deux.
Ok, donc ce qu'on peut dire par exemple, c'est que si on a une douleur qui est unilatérale, on ne peut pas l'attribuer uniquement à un vasospasme, par exemple. Il faut forcément que ce soit bilatéral, parce que c'est un truc systémique.
Tout à fait. Et au-delà d'être systémique, c'est aussi dans l'observation et dans le questionnement des mamans qui auront les mains froides et les pieds froids. Donc ça c'est important aussi dans l'entretien de pouvoir bien l'expliquer.
Ouais, d'accord, ok. Ouais, ça va avec d'autres choses, il faut qu'il y ait d'autres signes, ça peut pas être là tout seul.
C'est ça. Et c'est rare que les mamans découvrent un syndrome de Raynaud pendant l'allaitement maternel. Par contre, elles peuvent découvrir l'intensité. C'est-à-dire que des fois, on va se rendre compte... Moi, j'ai déjà eu le cas une fois où une maman me dit « Ah oui, c'est vrai, vous avez raison, j'ai souvent les pieds froids, mon mari le dit, et les mains froides. » Mais il y a des pourcentages, il y a des degrés de syndrome de Raynaud.
Oui, bien sûr. Ouais, bien sûr. Oui, on peut avoir un petit syndrome de Raynaud qui n'est pas gênant du tout dans le quotidien. Et puis, par exemple, un bébé qui arrive là-dessus avec une succion un peu cata, qui pince trop fort et qui vient abaisser les seuils de déclenchement, c'est ça?
Exactement. Alors, il y a deux causes. Il y a donc cette fameuse maladie de Raynaud, hein, qui est induite par le froid, surtout, et les écarts de température trop importants. Mais il y a aussi le stress émotionnel. Donc, on va pouvoir jouer, on verra aussi dans la conduite à tenir, mais on pourra voir aussi qu'une maman qui est stressée va accentuer ce vasospasme et cette vasoconstriction, donc la douleur.
D'accord. Et encore une fois, la succion du bébé a-t-elle un impact dessus?
La succion du bébé va avoir un impact dessus parce que plus le bébé va pincer, plus il va accentuer la vasoconstriction des vaisseaux.
Ok, et donc au même titre, c'est pas forcément parce qu'on a un syndrome de Raynaud qu'on va avoir un vasospasme, du coup?
Si, mais par contre l'intensité peut être modérée et supportable.
D'accord.
Tandis que pour d'autres, vont pas l'être du tout et peut être un arrêt de l'allaitement maternel.
Oui, donc on peut avoir par exemple un syndrome de Raynaud avec un bébé, par contre, qui tète très bien et un truc qui reste complètement supportable. Et à l'inverse, avoir un syndrome de Raynaud pas si costaud que ça, mais un bébé qui tète très mal et qui vient déclencher le truc trop souvent.
Oui, exactement.
C'est ça.
C'est exactement ça.
Ok, donc en fait, ça vient franchement du corps de la maman, pour une fois.
Oui.
Voilà. Non, parce qu'on dit toujours qu'il y a... Enfin, on essaie de briser les idées reçues en disant qu'il n'y a rien qui vient des mamans. La plupart du temps, c'est la succion des bébés, etc. Là, c'est un facteur qui vient favoriser encore la chose. Mais le syndrome de Raynaud en lui-même, c'est vraiment quelque chose qui est inhérent à vous-même en tant que personne. C'est quelque chose de systémique de votre système cardiovasculaire. Et donc, le bébé va peut-être venir l'aggraver, mais c'est quelque chose qui est inhérent à vous. Ok, est-ce qu'on a bien expliqué ce que c'était, je pense, hein?
Je pense que oui, ce qui va être important pour les mamans, c'est de comprendre un petit peu comment on peut limiter la douleur.
J'allais y venir. Qu'est-ce qu'on fait du coup avec cette histoire? Parce que c'est bien beau cette affaire, mais maintenant on a mal, et c'est pas forcément de la faute de bébé, alors qu'est-ce qu'on fait? Alors si déjà on fait vérifier la succion de son bébé.
On fait vérifier la succion de son bébé, on va déjà aussi dans un premier temps s'assurer que la maman elle est confortable, puisqu'on a vu que c'était aussi lié par rapport à un stress émotionnel, donc on va faire tout pour que la maman soit confortable pendant l'allaitement maternel. Donc, on va favoriser, si tu connais un petit peu, le biological nurturing, vraiment qui prend en compte le confort de la mère. Et là, ça va être de nouveau très indispensable. Et puis, on va essayer de voir des techniques d'amélioration de prise du sein, notamment pour éviter le pincement et la succion trop douloureuse lorsque le bébé prend insuffisamment en profondeur le sein de la maman. Et là, ça va créer réellement de la douleur. Donc, position biological naturaling, confort maternel 100%.
Est-ce que tu peux rappeler en quelques mots ce que c'est que le biological naturaling?
C'est deux spécificités. D'abord, il y a la mère et ensuite, il y a le bébé. C'est le corps maternel à 100% soutenu et on est dans une inclinaison vers l'arrière. Donc, peu importe le degré d'inclinaison, mais c'est jamais droite à la verticale. L'inclinaison de la mère va permettre de mettre le bébé dans une gravité dite positive, c'est-à-dire que l'enfant va venir au sein et c'est pas le sein qui va venir vers le bébé. Donc, on va jouer sur le confort de la mère et le confort du bébé par la gravité qui va amener l'enfant vers le sein, stabiliser l'enfant sur ses quatre membres et pouvoir avoir une pression plus au niveau des fesses et au niveau des membres qu'au niveau de la bouche, et donc pression importante.
D'accord, ok. Donc ça veut dire en gros que les mamans, il faut se semi-allonger, en tout cas pas s'asseoir droite comme un I, comme on peut parfois vous le montrer à la maternité, mais voilà, avancer les hauts. Si on est dans une chaise, avancer les fesses, reculer le dos, venir poser le dos dans le dossier et que le bébé vienne se placer au-dessus de vous, pour que finalement, en effet, il ait la gravité avec lui et avec sa langue pour aller chercher le plus loin possible le mamelon, et que ce soit pas l'inverse, que ce soit pas le mamelon qui vienne rentrer dans sa bouche avec un bébé qui est obligé de le maintenir en bouche parce qu'il a la tête qui part toujours en arrière.
Et en maintenant, comme tu le dis, le mamelon en bouche par l'enfant quand il n'a pas ses points d'appui, on va créer des tensions au niveau de la mâchoire et au niveau de la bouche qui vont pincer davantage le mamelon. Mmh. Et dans notre cas de vasospasme, ça va accentuer la douleur. Plus l'enfant va pouvoir se positionner de manière intégrale et de ventre à ventre sur la mère, plus il va lâcher les tensions au niveau du visage et donc on va avoir un bébé qui va téter plus sereinement et plus en profondeur, donc moins de douleur.
Ok, très bien. Donc ça, c'est la première solution, faire bien attention aux positions d'allaitement, que la maman soit la plus sereine possible.
Maman confortable, bébé confortable.
Quand tu dis le contexte émotionnel, qu'est-ce que tu entends par là ?
Qu'on n'ait pas un environnement stressant, c'est-à-dire qu'on ait un papa bienveillant ou un parent bienveillant, qu'on soit à la maternité avec, des accompagnants qui soient dans l'écoute de la mère. Et je tiens à préciser dans ce podcast que la douleur de la tétée ne doit pas exister. C'est faux de penser qu'on doit s'adapter et qu'au début c'est normal que ça fasse mal. Ça ne doit pas faire mal. Si ça fait mal, c'est qu'il y a un problème. Peut-être grave ou peut-être pas grave, mais en tout cas, il y a un problème. Donc, écoutons-nous, les professionnels de santé, écoutons les mamans par rapport à la douleur et soyons dans l'observation. Une professionnelle de santé qui vient va limiter ou minimiser la douleur de la mère, ça va créer un stress chez la mère puisqu'elle ne se sent pas écoutée. Et dans l'accompagnement de la mère et de l'environnement, c'est avoir des gens autour d'elle qui valorisent ses compétences.
Ok, très bien. Parce qu'on sait que finalement, tout stress ne fait qu'aggraver les douleurs, quelles qu'elles soient. C'est ça le principe.
C'est ça. Et puis, elle va aussi minimiser elle-même ses propres douleurs. Et donc, passer à côté de solutions qui peuvent être, on va voir, parfois assez simples.
Donc, du coup, voilà, on s'installe bien. On fait vérifier la succion de son bébé. Au mieux, votre bébé tête, au moins, il va pincer. Au moins, il va venir constricter, encore une fois, les vaisseaux et venir appuyer dessus et recréer des douleurs. Qu'est-ce qu'on peut faire d'autre ?
Alors, moi, ce que je préconise, c'est qu'on va masser le mamelon, soit avec une application chaleur, comme par exemple un gant de toilette ou un coteau chaud ou chose comme ça, pour déjà limiter les écarts de température. Donc, dès qu'on dégrafe son soutien-gorge, on peut très facilement venir masser avec du chaud pour pouvoir préparer le mamelon à la chaleur 37 humide de la bouche du bébé.
Et oui, mais oui, bah oui, parce que j'y pensais pas, mais c'est vrai que le bébé, lui, il est à 37 degrés à l'intérieur, et bon, hors canicule dans laquelle toi tu es, mais sinon on n'est pas dans la même température extérieure que bébé à l'intérieur de sa bouche.
On n'est pas dans la même température, et puis c'est surtout aussi que malgré tout, il va y avoir un échauffement qui va se créer par la succion. Donc on va déjà préparer par le massage un petit peu le mamelon, à le titiller en fait, à venir le stimuler pour lui faire comprendre qu'il va y avoir de la stimulation intense dans les prochaines minutes. Donc on va pouvoir commencer petit à petit déjà à l'habituer. Parce que si on est sur une circulation dormante, on va dire, et que d'un coup, platch, on va venir latcher, comme disent les mamans anglaises, on va venir pincer le sein et le mettre en bouche, on va créer une réaction très intense dès le départ et une vasoconstriction plus importante. Donc, massage avec du chaud déjà avant la tétée.
Ok, très bien. Ça va, c'est assez simple à faire.
Pendant la tétée, on a vu, on va optimiser le confort de la mère et le confort du bébé. Et ensuite, une fois que le bébé a terminé de tétée, on va retrouver cette sensation de chaleur et on va de nouveau masser ou mettre du chaud sur le sein pour éviter l'écart trop important de température. On va aussi pouvoir se couvrir soi. Alors là, on est en pleine canicule, ça paraît complètement dérisoire, mais pour les mamans qui nous écouteront cet hiver, les mamans, le fait qu'elles ne soient pas elles non plus dans un écart de température, qu'elles aient surtout pas froid quand elles allaitent. Il faut qu'elles aient une couverture, un plaid, quelque chose qui leur permet de maintenir une chaleur corporelle pour éviter la vasoconstriction également de toutes ces extrémités.
Ok, oui, en fait, l'histoire, c'est d'essayer de lisser, tu vois, les pics de chaud, froid et échauffement qui vont se passer au niveau du mamelon. Donc, c'est essayer de tamponner tout ça pour que ça ne fasse pas un pic et que ça s'étale, c'est ça ?
Exactement ça. Exactement ça.
Ok, donc en gros, on reste au chaud, quoi.
En gros, on reste au chaud. Ce qu'on va faire aussi, on sait que c'est vasoconstricteur, c'est le café, le tabac. Donc, on va éviter vraiment le café qui peut être un vasoconstricteur très puissant et le tabac qui est pas recommandé ou en tout cas limiter un maximum pour les mamans qui allaitent, va pouvoir limiter la douleur du vasospasme.
D'accord, ok. D'autres choses dans l'alimentation qu'on sait qui viennent vasoconstricter et tout ça ?
Alors, dans l'alimentation, oui. Avant juste de parler d'alimentation, il faut savoir aussi que c'est des douleurs qui sont parfois extrêmes, qui peuvent être aussi traitées sous antalgiques et ibuprofène, des fois dès la maternité. Donc, il ne faut pas négliger non plus ce phénomène-là de douleur. D'accord ?
Ok. Oui, ouais, on va jusqu'au médoc.
On va jusqu'au médoc. Souvent, les mamans vont jusqu'au médoc parce que c'est insoutenable, hein, parfois. Hein. Ça va se réguler. Les mamans vont arriver à comprendre, déjà à accepter aussi, comprendre le phénomène, avoir des solutions, vont pouvoir aussi aider à passer la crise, j'ai envie de dire.
Ok. Ça n'a pas l'air drôle, cette histoire de vasospasme.
J'ai envie de dire, c'est une question d'habitude, d'habituation, et dans ces cas-là, c'est comme les pieds froids et les mains froides. Moi, j'en ai un petit coup, hein, clairement, du syndrome de Raynaud, et je sais que j'ai tendance à masser, par exemple, quand j'ai les extrémités froides ou quand je suis au sport d'hiver, je vais avoir tendance à avoir besoin de masser avant.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Et après, pour éviter justement cette douleur qui peut être inconfortable. C'est une question d'habitude et de préparation en amont et surtout de massage après pour permettre la circulation et de ne pas avoir se laisser aller par la douleur.
Oui, c'est-à-dire que tout ça, si tout se passe bien, si l'allaitement démarre facilement, finalement, ça peut être relativement gérable. Mais si on cumule ça avec d'autres problématiques de démarrage d'allaitement, ça peut vite tourner aux différentes douleurs avant, pendant, après. Et ça peut vite devenir insupportable par l'accumulation aussi de soucis au démarrage, non ?
Oui, c'est ça.
Ok, donc du coup, côté médicaments, tu nous as dit...
Alors, on va parler, on va continuer comme on est sur les choses un petit peu plus classiques. On va parler aussi de la consommation au niveau alimentation, ce qu'on peut faire. Donc, on va aller travailler sur tout ce qui est vitamine B6 et oméga-3, qui va permettre de limiter aussi la vasoconstriction et favoriser la circulation sanguine.
Tout à fait, ouais.
Donc, tout ce qui est huile à base d'oméga-3, les huiles de poisson également, tout ce qui est poisson gras et tout ce qui est source d'acide linoléique va vraiment nous aider.
Ok, donc on va s'acheter des gélules d'oméga 3 et on mange des sardines.
Et on mange des sardines et du foie de morue pour ceux qui aiment.
Bonheur.
Et ben moi j'y ai goûté et franchement j'aimais pas, mais maintenant j'aime bien.
C'est vrai ?
Ouais,
comme quand on s'habitue à tout.
On s'habitue. Le magnésium et le calcium vont aider aussi à réguler un petit peu la vasoconstriction. Donc s'assurer de ne pas être en carence surtout.
Ok.
Peut-être faire un bilan au besoin.
Ouais, éventuellement faire un petit bilan pour savoir de quoi on manque vraiment pour ne pas se retrouver à prendre 50 gélules par jour là.
Aussi.
Ok, donc ça c'est pour les solutions, on va dire, de compléments alimentaires.
Ça c'est, voilà, compléments alimentaires, ce qui va permettre, alors ça va pas se faire du jour au lendemain, mais ça permet quand même de stabiliser un peu cette douleur-là. Donc dans les huiles, vous avez l'huile d'onagre hein, qui marche très bien, qui est pas très, très sympa en goût, mais par contre c'est la plus efficace.
D'accord. Ça se met sur les salades et tout ça, l'huile d'onagre,
oui.
Ou il y a des gélules aussi ?
Il y a des gélules, exactement, gélules ou sinon dans les salades.
Ok.
Et l'huile de poisson contient vraiment beaucoup d'oméga-3 et d'oméga-6.
Ouais, oméga-3, oméga-6, vous savez, en général, on en a tous un peu besoin.
De toute façon.
Ouais, c'est un truc, ça lutte contre les micro-inflammations, etc. C'est quand même hyper important pour la santé. Et globalement, on en manque un peu dans notre alimentation classique et transformée. Donc, voilà.
Et puis, dans ce contexte-là de naissance, de toute façon, c'est pas non plus à limiter, j'ai envie de dire, on peut se faire plaisir.
Ouais, complètement. Mangeons des sardines, moi j'adore.
Ouais. Alors, on a parlé tout à l'heure des antalgiques et des ibuprofènes au besoin quand vraiment c'est douloureux. Ce qui va fonctionner, donc ça c'est plus d'un point de vue du prescripteur, hein, c'est la nifedipine qui est un vasodilatateur qu'on va utiliser pendant 2 semaines et qui va permettre la diminution du tonus vasculaire et qui va entraîner cette fameuse vasodilatation et donc limiter la douleur pendant les tétés.
D'accord, donc ça c'est quelque chose qui est prescrit, hein. Il faut une ordonnance.
Bien sûr, bien sûr. Donc il faut trouver aussi la bonne personne.
Ouais, c'est ce que j'allais dire, parce que tu vois, régulièrement, je vais parler du cas de la candidose, où il faut un traitement, tu vois, de 3 semaines entières, là, pour que le cycle de vie du champignon soit vraiment fini, on se heurte aux médecins qui connaissent pas bien l'allaitement, malheureusement encore souvent, et qui prescrivent le truc 15 jours et qui veulent pas le represcrire après. Et donc, dans un cas comme ça, est-ce qu'on va se heurter aux mêmes problématiques? Est-ce qu'il faut trouver des médecins bien spécifiques qui connaissent le sujet? Comment ça marche?
C'est encore plus compliqué que la candidose, parce que le vasospasme, si on rappelle bien, c'est pour ça que j'ai donné les chiffres tout à l'heure, mais c'est seulement connu et plus comme une maladie psychosomatique depuis 1992. Donc l'explication d'un traitement sur une maladie qui n'est pas visuelle, parce qu'en dehors de la tétée, ça ne se voit pas du tout. Donc si on n'a pas un prescripteur, un médecin qui connaît le vasospasme et qui est d'accord pour pouvoir le traiter, c'est beaucoup plus compliqué.
D'accord.
Sachant que dans les traitements, la première intention, ça va vraiment être ce fameux inhibiteur calcique, la nifedipine, qui a quand même c'est un traitement de première intention qui fonctionne bien, mais sur la durée. Donc il faut avoir la possibilité de pouvoir le prescrire et de le mettre pendant plusieurs semaines.
Oui, d'accord. Ok, donc il faut trouver un médecin qui s'y connaisse un minimum, il faut bien s'entourer.
C'est ça. Ou alors, moi je sais que je travaille avec certains pédiatres que je ne connais pas forcément, mais le fait de pouvoir expliquer, de leur donner les ressources aussi, d'aller sur la Leche League, etc., on va facilement pouvoir retrouver des liens ensemble pour pouvoir trouver une solution pour cette maman.
Rappelle-moi le nom du médicament.
Nifedipine.
Nifedipine, ok. Il y a d'autres choses qui fonctionnent sur le vasospasme?
Il y a d'autres choses qui sont beaucoup moins connues. Qui sont des inhibiteurs de la phosphodiestérase de type 5, Balcoga, Granipadam, c'est des mots un petit peu, Adkirka, moi aussi c'est compliqué à dire, mais c'est des vasodilatateurs qui sont envisagés lorsque les inhibiteurs calciques ne sont pas efficaces. Donc ça c'est vraiment avec des pros du vasospasme, mais c'est très bien expliqué encore une fois dans la littérature, donc il y a des méta-analyses qui sont là et qui mettent en lien justement les traitements qui peuvent être déjà en cours sur le syndrome de Raynaud et être poursuivis pendant l'allaitement. Il y a un léger passage dans les maternelles, il faut en être conscient, mais les molécules passent très peu dans les maternelles et par rapport aux bénéfices du lait maternel sur une diminution de la douleur chez la mère, ça n'a rien à voir, c'est pas comparable.
Dans la balance bénéfice-risque, on est encore largement dans les bénéfices, c'est ça ?
Exactement, exactement.
Ok, très bien.
Quelques effets secondaires sur ces inhibiteurs calciques et puis sur les vasodilatateurs. On peut avoir des céphalées, des vertiges et parfois quelques hypotensions. Donc c'est pareil, il faut vraiment que ce soit surveillé par des médecins.
Oui, donc on ne fait pas ça dans son coin, ok.
Alors, ils sont très rares, les effets secondaires, mais il faut savoir que tout traitement a un effet secondaire.
On ne se prend pas à la légère. Tout ce qu'on ingère qui est chimique peut avoir des effets secondaires, quoi qu'il arrive. Il y a d'autres solutions au niveau médicamenteux ou non, c'est bien comme ça?
On va juste éviter fluconazole, adrénaline, sérotonine et les contraceptifs oraux qui vont faciliter aussi la vasoconstriction. Donc on essaie au maximum de retarder la contraception orale et puis adrénaline et fluconazole. Voilà, fluconazole, en fait, c'est contre-productif, c'est-à-dire que souvent, le vasospasme est considéré comme une candidose en diagnostic différentiel. Donc, on va traiter avec le fluconazole et ça va accentuer le vasospasme.
Ah, oui, donc ça, c'est bon à savoir. Il faut vraiment essayer de faire le lien entre les deux. Et on revient sur le fait que la candidose fait plus mal pendant la tétée, peut continuer de faire mal après. Mais à l'inverse, le vasospasme, retenez qu'il y a une histoire de coloration du mamelon qui change, qui va vers le bleu, qui va vers le rouge, enfin qui est blanc pendant les réflexes d'éjection, qui va vers le bleu ensuite et le rouge encore après. Dans la candidose, il y a peut-être un peu blanc à la sortie de la tétée, mais il n'y a pas le reste, et surtout la douleur, elle n'a pas tendance à s'accentuer à la sortie de la tétée.
C'est ça. Et puis sur une candidose, tu peux avoir, d'un point de vue cutané, tu peux avoir quelque chose d'un peu liquide, tu peux avoir un dépôt blanchâtre, ce qu'on appelle une desquamation, c'est-à-dire une perte de peau un peu luisante. On va avoir, sur la candidose, visuellement, on va pouvoir plus facilement trouver des points d'observation que le vasospasme. Une fois que c'est redevenu dans sa coloration habituelle, il n'y a rien. Ça, c'est un des diagnostics différentiels du vasospasme et de la candidose.
Ok, donc voilà, ça peut vous aider. Ce qui est bien quand même, là, quand on rentre dans des choses comme ça, on le répétera jamais assez, mais c'est d'aller consulter des gens qui sont spécialisés
dans le domaine, parce que l'histoire de les photos, j'envoie à ma copine, elle a eu ça, machin, elle m'a dit que c'était un vasospasme. On a trop de chances de se gourer là. Donc il faut reprendre le truc au démarrage. Dans les candidoses, peut-être le bébé, il a un muguet aussi dans la bouche, il a la langue qui est blanchâtre, etc. Et puis on a le droit d'avoir un bébé qui a un muguet et puis d'avoir quand même un vasospasme. Donc voilà, et faites-vous accompagner de gens qui sont spécialisés dans le domaine. C'est quand même le meilleur conseil qu'on peut vous donner. On rentre dans des choses qui sont très spécifiques. Milkshaker, c'est là pour vous donner des clés et pour pouvoir voilà, vous mettre la puce à l'oreille si vous avez en face de vous des gens qui n'ont pas percuté sur une chose ou une autre. Mais vraiment, allez consulter. Donc du coup, est quand même revenue trois fois cette question de lien avec la candidose. Est-ce que on a plus de chances d'avoir un vasospasme si on a une candidose et inversement, ou non, pas du tout. C'est juste qu'en fait, les deux sont confondus parce que ça donne le même style de douleur.
C'est exactement ça. Les deux sont confondus parce que c'est le même style de douleur. Il n'y a pas de plus de candidose parce qu'une maman a un vasospasme, mais il n'y a pas plus de vasospasme, on peut le comprendre maintenant, parce qu'il y a une candidose.
Okay, bah,
ce qui est sûr, c'est que c'est de la douleur. Donc si on a de la douleur de candidose, la maman va être dans un stress pendant la tétée, donc va augmenter sa vasoconstriction, donc va augmenter son vasospasme.
Oui.
Donc c'est sûr que si on a une candidose et qu'on a mal, et qu'on a même d'autres problèmes ou d'autres pathologies, je pense à une maman qui sort d'une césarienne, par exemple, va avoir un vasospasme, une vasoconstriction qui va être plus intense et encore plus douloureuse. Donc traiter toutes les douleurs pour limiter la douleur du vasospasme. Mais la douleur du vasospasme, on l'enlèvera jamais. Elle sera toujours présente, contrairement à une candidose où c'est vraiment une phase aiguë, et ensuite il y a une phase de cicatrisation totale. Le vasospasme, on l'a de A à Z, du début jusqu'à la fin de l'allaitement. C'est pour ça que les tips qu'on va mettre ensemble, et c'est chouette de pouvoir les exprimer sur Milkshaker, c'est des petites choses qui vont permettre de mieux passer l'étape de la douleur et de pouvoir lisser, comme tu disais très bien, les inconforts.
Ok. Non, très bien, c'est clair. J'ai juste une question. Pourquoi une maman qui sort de césarienne a plus de douleurs de vasospasme ?
Parce que la douleur de la césarienne va créer un stress et des contractions.
Ah,
en fait, c'est la douleur d'une chirurgie post-chirurgicale.
Oui, oui, ok, c'est le contexte de... Voilà, il faut être le plus serein possible.
Voilà. Mmh. Alors, hors césar programmé, quand on est sur une césar en urgence, etc., on est déjà dans une émotion un peu plus traumatique.
Ok, bah écoute, je crois que c'est très clair. Est-ce que tu penses qu'on a oublié de dire quelque chose ou est-ce que tout y est ?
Je pense qu'on a fait le tour. Je pense que ce qui est important de retenir, c'est qu'on peut vivre avec. Faut vraiment limiter les écarts de température. Ça, c'est le plus important. Mmh. Et puis masser avant, après, pour vraiment désensibiliser au maximum et pas rester sur cette contraction capillaire. Et donc vraiment aider à la dilatation doucement, mais sûrement.
Ouais. Ouais, dilatation et après vasoconstriction. Essayer de lisser vraiment les pics de changement au niveau vasculaire, c'est la clé. Ok, bon bah écoute, on a tout pour le reconnaître, la douleur, les changements de couleur, est-ce qu'on a déjà un terrain où on a facilement les mains froides, les pieds froids, etc. Est-ce qu'on vérifie si notre bébé tète bien, on s'installe correctement, on fait attention un peu à ce qu'on mange, on prend des oméga 3, on demande l'avis d'une consultante en lactation IBCLC pour faire vraiment la différence avec d'autres pathologies qui peuvent être là et savoir où est-ce qu'on va. On fait pas l'amalgame avec la candidose. Voilà, il faut bien faire la différence entre les deux. On se met au chaud et voilà. Et on fume pas
et on boit pas de café.
Et on boit pas de café, c'est vrai, j'avais oublié. Et on mange des sardines.
Okay. Et on mange des sardines et de l'huile de foie de morue à la place.
C'est vrai.
C'est une question d'habitude.
Vive le postpartum, ma foi, c'est
on
vraiment
aime.
Génial.
On aime, le mois d'or.
Merci beaucoup Céline d'être revenue encore une fois dans Milkshaker. Je vous rappelle parce que du coup je lui ai pas dit de se représenter, mais on sait jamais que ce soit la première fois que vous l'écoutiez. Céline, elle est IBCLC, elle exerce à Nice au soleil et là elle a chaud, elle est en visio devant moi, elle a son ventilateur et tout, alors que nous à Paris ça y est, ça s'est un peu rafraîchi. Elle travaille à Nice et puis elle fait aussi du visio si vous avez besoin, donc voilà, n'hésitez pas à la contacter et voilà.
J'ai un programme de formation. C'est allaitement et spécificité, qui est, je crois que la prochaine session, c'est fin novembre, début décembre. Donc c'est un niveau 1 et un niveau 2 pour les professionnels de santé et pour les non-professionnels de santé, ça je tiens à le dire aussi. Donc il y a un niveau 1 sur anatomie, physiologie et un niveau 2 qui est vraiment sur les pathologies. Et on parlera d'ailleurs du vasospasme dans la formation. Super. Et puis une petite pépite qu'on est en train de mettre en place sur Nice, mais aussi au niveau national pour la Semaine mondiale de l'allaitement. Chaque année, on va mettre en place une journée avec mon association Mama Bella. Et cette année, il y a du lourd qui arrive pour le 19 octobre.
Cool. Ok, et eh ben ça fait pas mal de choses. Et si tu fais aussi de l'accompagnement d'accouchement à domicile, il me semble.
Oui, je suis doula depuis début d'année et j'accompagne les mamans dans une naissance bienveillante, physiologique et en première phase d'allaitement maternel, puisque c'est une continuité de l'ocytocine, comme je le dis souvent dans mes conférences, de la naissance d'une mère et d'un bébé. Et l'allaitement se joue déjà pendant la grossesse et pendant l'accouchement avec les fameuses hormones de l'ocytocine, l'hormone de l'amour.
Exactement. Bon, voilà. Bref, si vous êtes sur la côte sud-est, vous avez une super consultante en lactation et doula dans le coin. Tes conférences, tes formations, c'est en visio ou c'est en réel ?
C'est en visio.
C'est en visio.
Comme ça, je peux pas être que sur le sud, puisque j'ai quand même pas mal de gens du nord aussi qui me suivent et de l'étranger maintenant. Donc elles sont en visio. Et par contre, pour l'instant, elles sont tout le temps en présentiel. Je verrai après pour voir si je change de format, mais j'aime aussi être dans la communication et dans l'humain. Donc déjà, le passage en visio, c'était déjà une étape, mais finalement, qui fonctionne bien.
Ok, très bien. Bon, écoutez, je sais qu'il y a pas mal d'ostéopathes qui écoutent le podcast. Alors, si jamais vous avez besoin d'un peu plus de formation autour de l'allaitement maternel, vous avez Céline qui va vous parler spécifiquement d'allaitement maternel. Et puis, si vous voulez en apprendre plus sur la succion de vos bébés, eh ben, vous venez en formation chez IJ avec moi.
Et ben voilà, complémentaire.
Voilà, ce sera complémentaire. Allez, super. Merci beaucoup, Céline, d'avoir pris de ton temps pour nous parler du vasospasme. Et puis, je te dis à très bientôt dans Milkshaker. Je suis sûre que ce ne sera pas la dernière fois.
Avec grand plaisir, comme à chaque fois, d'être invitée avec toi.
Allez, salut Céline, à tous et à toutes, à très bientôt dans Milkshaker.
Toi aussi, ton histoire vaut le coup d'être entendue? Tu as envie de réagir à l'un des thèmes abordés dans le podcast avec ton expérience? Tu penses que cela pourrait aider d'autres mamans? Tu as désormais la possibilité de me laisser un vocal de maximum 5 minutes pour me raconter ton histoire ou un épisode marquant de ton allaitement. C'est très simple, tu te rends sur mon site internet charlottebergerot.fr ou milkshaker.fr, tu cliques sur le lien qui s'affiche pour témoigner. Et peut-être que tu t'entendras bientôt dans un épisode de Milkshaker. Que ce soit votre première écoute ou que Milkshaker vous accompagne régulièrement, merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode. Si vous aimez ce podcast, je vous rappelle que vous pouvez donc le noter, vous abonner sur votre plateforme d'écoute et on peut se retrouver sur les réseaux @milkshakerpodcast pour échanger ensemble. Vous pouvez aussi retrouver tous les épisodes sur mon site internet charlotte-bergerot.fr. Et si vous me cherchez en tant qu'ostéopathe, pour vous ou pour votre bébé, vous pouvez me retrouver à Suresnes, dans les Hauts-de-Seine, au centre IJ4U que j'ai créé en 2020. Vous y trouverez aussi une équipe de thérapeutes spécialisée dans la prise en charge de la femme et de l'enfant. Pour plus d'infos, rendez-vous sur le site IJ4U, IJ ça s'écrit YGY, et sur Doctolib pour la prise de rendez-vous. On se quitte en musique avec Emma et son titre Blinded, écrit et composé en collaboration avec Nemen. Je vous dis à très vite pour un nouvel épisode. Et d'ici là, n'oubliez pas, prenez soin de vous, milkshakez autant que vous le voudrez et bousculons ensemble les idées reçues sur l'allaitement maternel.